« Passez-moi du feu, » fis-je à l'aubergiste, et quand j'eus allumé ma pipe. « Père Schaeffer, tu es un sale blagueur ?»«
Nom de Dieu ! Eh bien, et l'enquête ? Et les journaux ?»«
Possible, mais tu me fais rigoler avec ta hache, ta fourche. C'est comme si tu me disais que les Weisbars avaient fait cuire leurs victimes dans cette marmite-là. »«
Vous êtes un malin, » s'exclafa-t-il. « Mais j'ai trouvé le chaudron qu'il me faut. Pas plus tard qu'hier, la femme est allée le payer aujourd'hui. » Et le valet l'a rapporté avec quelques affaires qui ne feront pas mal dans le paysage. C'est mon idée. Et quand tout sera arrangé comme avant, on croira y être. Mais faut y croire. Quand je vous dis « c'est le chaudron, c'est la hache, c'est la fourche », faut y croire ou il n'y a pas de plaisir. Et vous n'êtes pas amateur. Moi, ce que j'en fais, c'est pour les amateurs.
C'est déjà bien beau que ce soit le réduit, que ce soit le puits, que ce soit l'auberge. Avec un peu d'imagination, on y est. Sans compter que ma femme et mon domestique, c'est un coup de génie.
Je veux être riche avant 10 ans. Quand je pense que mes prédécesseurs ont remis la chambre des voyageurs à neuf et qu'ils ont fait ici un salon, les cochons. S'il est possible d'abîmer comme ça l'auberge du sang.
Il soupira, et puis...
Avec vous, vous voyez, je ne fais pas de boniment. Je vois que j'ai affaire à des voyageurs quelconques. Je montre mon décor à l'envers. Mais il y en a qui m'en voudraient, car il y en a qui aiment ça.
N'ayez pas peur, ma petite dame, fit-il à la comtesse.
Si ça vous gêne de coucher dans mon grenier, où on a assassiné cette pauvre madame, je vais vous faire descendre un matelas dans le salon.
« Non, nous coucherons dans le grenier !» déclara Antonio Ferretti. « Eh bien, et vous ?» fit encore l'aubergiste en se tournant vers moi.
« Ça vous ennuie peut-être de coucher dans la chambre des voyageurs ?»«
Pas du tout, pas du tout, n'est-ce pas, Maria Luce ?»«
Oh, moi, ici, j'ai peur partout !» répondit Maria Luce.
Alors nous, les trois hommes, nous nous mîmes à rire. Et les femmes finirent par rire comme nous, mais du bout des lèvres. La mère Schaeffer réapparut par sa trappe, suivie du domestique, et nous ne rîmes plus du tout. Seul Schaeffer semblait s'amuser beaucoup de l'effet que produisait son épouse. Il appelait son valet Daniel, comme l'autre, et lui ordonna de tordre le cou à 2 poulets, mais Olivia déclara qu'elle n'avait pas faim, qu'elle se contenterait d'un bol de bouillon.
« Pardon, pardon, moi j'ai faim !» protesta Antonio Ferretti. « Un poulet ne me fera pas peur. »«
Et toi ? » demandai-je à Maria Luce.
« Moi non plus, » répondit-elle en se serrant contre moi. « C'est la seule chose qui ne me fasse pas peur dans la maison. »«
Nous dînons ensemble ?» demanda Antonio, qui, décidément, avait oublié l'incident de la diligence. « Non, fis-je, je vous remercie, j'ai fait faire une flambée dans la chambre. Ma femme et moi, nous dînerons chez nous. »«
C'est très bien chez vous, » répliqua l'autre en souriant. « J'ai vu la chambre. Vous avez de la veine. Je comprends qu'on y reste, au risque de s'y faire assassiner. »«
Vous êtes gai.
Oh, je parle pour ceux qui sont venus avant vous. »
L'hôte faisait entendre un bruit de clé. Il venait d'allumer les lampes, car la nuit était tout à fait venue.
« En attendant le dîner, je vais vous faire faire un petit tour. La pluie a cessé. Nous allons aller au puits, à la grotte, dans l'écurie. »
Les femmes hésitaient. Nous les décidâmes à nous suivre. L'hôte nous précédait, brinque-ballant une lanterne. Et dans l'écurie, devant le puits, dans la grotte, qui était à 100 mètres de l'auberge, et dont on avait été longtemps sans soupçonner l'existence, il nous évoqua toute l'histoire, et même davantage. Il devait y mettre du sien. Les crimes de l'auberge de Père Belle étaient de la gnognotte, de la pure gnognotte, à côté des crimes de l'auberge du sang. Les Weisbars s'étaient fait, au fond de la grotte, une espèce de four crématoire. Là aussi, on avait découvert dans les cendres des fragments d'os humains trop considérables pour pouvoir être confondus avec des os de moutons. On a beau faire les esprits forts, nous revînmes de cette petite expédition assez impressionnés. C'est avec plaisir que nous retrouvâmes la grande salle de l'auberge avec son âtre. Et pourtant, oui,
Mais dans l'âtre, les deux poulets tournaient à la broche et répandaient une odeur des plus sympathiques. Le valet bancal les arrosait de leur jus de temps à autre, tout en fourbissant un énorme bassin de cuivre le long duquel il était affalé.
« Qu'est-ce que tu fais là ? » lui demandai-je.
Il leva vers moi sa tête de brute et se remit à frotter.
« Pas la peine d'interroger Daniel !» ricana l'aubergiste. « Il ne vous répondra pas. Ce n'est pas que la parole lui manque, mais il a l'ordre de rester muet, comme l'autre, qu'il était vraiment. Comprenez ?»«
Oui, oui, ah, si je comprends. Compliment, vous n'oubliez rien ?»«
Rien. Quand ce chaudron sera dans l'âtre, vous verrez l'effet que j'en tirerai quand je raconterai ce que racontait la goitreuse au juge. »«
Quoi donc ?» demanda Antonio.
« Eh bien, mais ce qui lui est arrivé, la première fois qu'elle a compris quel maître elle servait ? Il y avait, ce soir-là, quand elle est rentrée de sa lessive, un feu de tous les diables dans l'âtre. Elle s'approcha pour voir ce qu'on cuisait là-dedans, elle souleva le couvercle, mais Weisbar accourut et la renvoya d'une taloche contre le mur. Mais elle avait vu. Elle avait vu une tête d'homme qui tournoyait dans le bouillon. Au milieu des débris de chair. »
Weisbar lui dit, « Voilà ce que c'est. La curiosité est toujours punie. Si j'étais juste, je t'enverrais voir jusqu'au fond du chaudron ce qui s'y passe. Mais j'ai besoin de toi. En attendant, tu peux toujours te couper la langue. »
La malheureuse se jeta à ses pieds en jurant qu'elle ne parlerait jamais. Et elle resta, parce qu'elle savait bien que l'autre ne la laisserait pas partir. Depuis ce jour-là, il ne se gênère plus devant elle. Il y avait des nuits même où il la forçait à assister à des choses. Il l'invitait à coups de pied dans le cul à venir dans le réduit.
« Tenez, descendons dans le réduit, c'est le plus beau. »
Et il reprit sa lanterne. Les femmes se regardèrent. Puis, un coup d'œil jeté sur le bancal qui les fixait en dessous, tout en frottant son chaudron, les décida encore. Derrière l'homme, nous descendîmes dans la cave, un escalier gluant, une corde graisseuse, les ténèbres, et puis ce lumignon en avant. On entendait maintenant des coups sonores comme un marteau qui frapperait sur des chaînes. C'était cela, en effet, quand, au bout d'un corridor souterrain, l'homme eut poussé une porte. Il y avait une autre lanterne par terre, sur le sol humide du caveau, et, accroupi, la mère Schaeffer était là, qui fixait un bout de la chaîne à un anneau dans le mur où était accrochée une lanterne. Au bout de la chaîne, il y avait un carcan de fer. Elle nous tournait le dos, elle ne se dérangea pas. Elle frappait comme une enragée, et puis elle s'arrêta un instant. L'homme dit
« Ça, j'ai été obligé de le faire faire. Mais c'est de la vieille ferraille tout de même. Ça tiendra le coup une fois que le carcan sera bien rouillé. Vous verrez qu'il y aura des amateurs pour y découvrir des taches de sang. « Quel animal » murmurai-je. « Il n'y a vraiment pas moyen de s'ennuyer avec vous. N'est-ce pas ? Et avec ma femme, donc ? Tenez, elle va vous faire le boniment. Elle va vous raconter l'histoire de la jolie femme brune dans le petit réduit. Ça vaut le jus. Vous devriez installer votre petit truc à Paris, boulevard Rochechouart. À côté du cabaret de Bruant, ça aurait du succès.
« Je connais, » fit-il. « On a voyagé. C'est pas les louftingues qui manquent. »
Ce caveau n'était pas très grand, mais il y avait place tout de même pour une petite exposition. À des clous enfoncés entre les pierres pendait un énorme couteau bien rouillé, une scie, une hache et tous objets nécessaires à un aubergiste qui entendait son métier comme feu Weisbar. Dans un coin, un aiguillon à bœuf et une fourche. Contre le mur encore, des tenailles. Puis, des logs informes qui pendaient et qui avaient perdu toute couleur, qui avaient été autrefois, paraît-il, des vêtements. Dans un autre coin, un tas de détritus où l'on démêlait des morceaux de cuir, qui avaient été des bottes.
Remarquez que nous n'avons rien inventé. Vous lirez ma collection de journaux. Tout y est. On a trouvé tout ça. « Malheureusement, la justice a tout gardé, mais j'ai remplacé tout ça le mieux que j'ai pu. »
Il riait.
« Vas-y, à toi !»
fit-il à sa femme. Alors, elle se dressa et elle marcha vers nous. Nous reculâmes. Cette bouche énorme, ces yeux bigles, je les verrai toute ma vie. Et tout ça éclairé fantastiquement, farouchement, par les feux sanglants et croisés de deux lanternes dont l'une était restée par terre. Quel relief! Quelle eau forte! La femme étendit les deux bras et s'empara de l'aiguillon et de la fourche. Et elle parla, en regardant la petite comtesse, d'une façon si terrible que l'autre détourna la tête. Quelle voix! Le père Schaeffer nous dit
« Vous savez, elle ne boit que sa rincette comme tout le monde, après le café au lait du matin. Sacrée Annette !»
Encore une qui l'appelait Annette comme l'autre.
Vous allez voir le phénomène.
Elle dit, toujours en fixant la petite comtesse.
L'une de ces dames ne veut pas essayer le carcan? Madame a beau être blonde, ça ferait l'affaire tout de même.
Mais cette proposition n'eut aucun succès. Annette eut un horrible sourire.
Chacun son goût. Voilà comment ça se passait. C'est la goitreuse qui l'a dit. Il est venu une fois, une jolie femme brune. Un monsieur entre deux âges l'accompagnait. Il ne devait pas être marié. C'était des gens riches qui avaient des bijoux. Un accident de voiture les avait forcés à s'arrêter à l'auberge. Le cocher était redescendu à Soleure et devait revenir les chercher le lendemain avec une autre voiture. Quand il revint, on lui dit que les deux amoureux étaient partis de grand matin et qu'ils avaient laissé de l'argent pour le cocher, lequel prit son dû et s'en retourna sans plus s'occuper de ses clients. Or, ses clients n'avaient pas quitté l'auberge. Le monsieur, assommé par Daniel et découpé par Weisbach, était déjà dans le chaudron. Quant à la belle dame brune, elle était vivante encore dans le petit réduit. Elle y a vécu 15 jours, à ce qu'a dit la goitreuse. Toutes les nuits, l'auberge fermée, il descendait lui faire une petite visite. C'était là qu'il l'avait enchaînée et qu'il lui avait passé ce carcan-là au cou. Un soir, que la goitreuse entendait des cris, elle se glissa dans la cave. Mais Weisbach, qui avait l'oreille fine, la découvrit. Il la traîna dans le caveau. « Faut que tu vois, lui dit-il, faut que tu vois ce qui t'arrivera si t'as la langue trop longue. » Et elle a vu. La jolie femme brune était toute nue, attachée là, comme je vous dis. Elle n'était déjà plus qu'une plaie. Et la Weisbach, tantôt avec sa fourche, tantôt avec son aiguillon, lui caressait les côtes.
Se disant, la mère Schaeffer s'actionnait, et ce qu'elle racontait était moins horrible que ce qu'elle faisait. À demi repliée sur elle-même, un mauvais éclair dans les yeux, son énorme bouche baveuse, elle lançait contre le mur où s'accrochait la chaîne tantôt sa fourche, tantôt son aiguillon, avec un entrain qui cessait tout à coup d'être de la comédie, et qui devenait de la rage, et peut-être de la volupté.
« La garce » glapissait-elle. « Elle la crevait, cette pauvre jolie dame, comme ça, et aïe donc, dans les côtes et partout, pendant que l'autre hurlait. « T'es belle maintenant, ah te voilà belle, ton amoureux peut venir, tiens, encore celui-là, te voilà maintenant plus belle que moi, faut vous dire. »
fit la Schaeffer en haletant et en se retournant vers nous, ou plutôt vers la petite comtesse, qui s'appuyait contre le mur pour ne pas défaillir.
« Faut vous dire que la Weisbach était laide comme les 7 péchés capitaux.
Et quel louchet! Alors, n'est-ce pas? Elle ne pouvait pas voir deux beaux yeux!
Et se disant, la chèvre regardait les yeux de la petite comtesse,
sans avoir envie de les crever.
Allons-nous-en! Allons-nous-en! S'écria Olivia Orsino. Je ne veux pas rester une seconde de plus ici!
Et elle se sauva du caveau. Nous la suivîmes tous. Derrière nous, Schaeffer disait avec un gros rire.
« Je vous ai dit qu'elle était impitoyable. Ah, elle répète bien sa leçon. Mais ne vous en faites pas, à part ça. Elle est douce comme un mouton. Et bonne cuisinière, vous savez. »
Et puis, ce fut la voix de la femme qui nous avait rejoints.
« Je vous ai fait peur, hein? Eh bien, il faut la raconter. Ça fera venir du monde. »
Je sentais Maria Luce toute frissonnante. Nous étions tous un peu pâles quand nous nous retrouvâmes dans la salle de l'auberge. Nous nous regardâmes et finîmes par éclater de rire, excepté la comtesse qui murmurait « Quelle horrible, horrible femme !»«
Avec tout ça, vous ne connaissez pas la fin de l'histoire ?»
dit Schaeffer, en piquant les poulets pour se rendre compte du degré de cuisson. Il arrêta le mouvement d'horlogerie qui les faisait tourner.
Ils sont à point, vous m'en direz des nouvelles, avec une bonne salade. La fin de l'histoire, la voilà.
C'est le jour où la goitreuse a été traînée dans le cachot, que la Weisbar a crevé avec sa fourche les deux yeux de la petite femme brune pour lui apprendre à les avoir plus beaux que les siens.
« Louche maintenant, louche !» qu'elle lui disait,
acheva la femme Schaeffer en se chargeant d'une pile d'assiettes prises dans un grand bahut.
« Eh bien, voilà assez, déclarai-je. Nous avons assez pris l'apéritif. À table, maintenant. »
Maria Luce me dit tout bas. « Tu ne sais pas ce que m'a dit l'Italienne? Elle demande que nous ne nous quittions pas. Dînons en bas avec eux. »
« Ah non, protestai-je. Moi, toutes ces histoires-là, je m'en fous. Et je veux avoir ma petite femme pour moi tout seul. »
Nous prîmes congé du couple et j'entraînai ma femme dans l'escalier. Nous eûmes quelque peine à retrouver notre chambre dans le singulier corridor. Vous vous rappelez l'argumentation du docteur Festus ? Je veux retrouver ma chambre. Or, ma chambre est au numéro 19. Donc, en allant au numéro 19, je retrouverai ma chambre. Ce disant, et tel un fil conducteur en main, le bonhomme pousse toujours plus avant. Mais à peine a-t-il progressé qu'un escalier inattendu se rencontre. Alors il trébuche et le descend d'un trait sur les reins. Nous aussi, nous faillîmes dégringoler de même sorte. Du reste, l'histoire des Weisbar comporte quelques incidents de ce genre. Le voyageur montait, le valet l'attendait dans l'ombre, en haut des marches, et le précipitait. Les aubergistes l'attendaient en bas, et son compte était bon. Enfin, plus heureux que le docteur Festus, puisqu'il n'y avait qu'une chambre dans cet hôtel, nous finîmes par la découvrir, mais j'avais ouvert plusieurs portes donnant sur de petites pièces encombrées de caisses et de débris de toutes sortes, et je me demandais pourquoi, dans une auberge, on n'utilisait point un espace aussi précieux. Quand le père Schaeffer nous servit notre souper devant un bon feu sous une honnête lampe de famille, je ne pus m'empêcher de l'interroger à ce propos. Il me répondit que ce serait beaucoup de frais, peut-être inutiles. Enfin, après une hésitation, il ajouta
« Mon idée est que le vieux Weisbar ne tenait point à avoir beaucoup de voyageurs à la fois. »
Et il s'en alla, après avoir déposé sur la table une bouteille de champagne et nous avoir souhaité une bonne nuit. Maria Luce me dit « Tu as compris, mais pourquoi lui aussi laisse-t-il les choses en l'état ?»«
Il vient d'arriver, cet homme, laisse-lui le temps, tu ne vas pas te faire des imaginations. »
À la fin du souper, je l'avais reconquise tout à fait. Nous avions vidé gaiement notre bouteille et, ma foi, nous ne pensions plus guère à toutes ces horreurs. Et nous allions nous mettre au lit quand on frappa un coup léger à notre porte. Il n'y avait point à cette porte de verrou, mais il y avait une clé et aussi une espèce de crochet que l'on glissait dans un piton fixé dans le chambranle. Je demandai « Qui est là ?»«
N'ouvre pas,
me souffla Marialus, déjà terrorisé. Il faut dire que nous avions prolongé la soirée et que l'on pouvait déjà nous croire endormis.
« Ouvrez, ouvrez vite !»
fit une voix sourde que je reconnus pour être celle de l'Italien. Alors, j'ouvris. L'homme se jeta dans la chambre et repoussa la porte. Il avait la figure pâle, ravagée, et semblait en proie à la plus folle émotion.
« Je viens vous avertir, » nous jeta-t-il, la voix tremblante. « Du premier, on entend tout ce qui se dit dans la cuisine. Ces gens-là sont des assassins. J'ai entendu la femme qui disait au père Schaeffer. Qu'est-ce que nous craignons? Si on découvre leurs os, on croira que c'est encore l'autre affaire. Vous comprenez que nous ne restons pas une seconde de plus dans cette taverne. J'ai trouvé une corde dans le grenier. Habillez-vous et faites comme nous. »
Marialus était déjà à demi déshabillé. J'avais jeté mon veston sur une chaise.
« Voilà une histoire, » m'exclamai-je, ahuri.
« Tu n'as pas vu les yeux de la femme ?» fit Marialus en claquant des dents. Voyant que je n'étais pas décidé, l'Italien ne perdit pas son temps à insister et disparut.
« Partons, partons !» suppliait-elle. « Tu n'as même pas un revolver ?»
C'était vrai. Et puis, on ne résistait pas à Marialus. Je pris le sac et, 2 minutes plus tard, nous étions dans le grenier. Nous y étions arrivés déchaussés pour ne pas faire de bruit. La petite porte en bois plein de la lucarne était restée ouverte. La corde y était attachée au crochet d'une poulie. Et les Italiens étaient déjà loin. Nous nous rechaussâmes hâtivement. J'aperçus alors une lueur qui filtrait entre 2 lattes du plancher. Cela venait de la cuisine. J'essayai de voir, mais je n'apercevais rien. Seulement, j'entendis la voix de Schaeffer.
« Par lequel faut-il commencer ?»
Chanlieu en était là de son récit quand le commandant Michel donna un coup de poing sur la table où dansèrent les soucoupes de l'apéritif.
« Je l'attendais, celle-là. Tu as de la littérature. Mais dans l'histoire de Paul-Louis Courier, l'aubergiste dit « Faut-il les tuer tous deux ?»
Il ne s'agissait que de 2 chapons. Tu nous prends pour des oies, Chanlieu ?»«
Minute !» dit Chanlieu.
« Je ne sais pas ce que tu racontes avec ton Paul-Louis, que je n'avais vu ni d'Ève ni d'Adam. » Et si vous êtes des oies, prenez-vous-en à vos parents respectifs. Moi, je raconte l'aventure telle qu'elle m'est arrivée.
Laisse-le donc finir, fit Dora. Moi, je comprends qu'il ne devait pas être à la noce.
Non, mon vieux, je n'étais plus à la noce, et Marialus non plus. Et je te prie de croire que nous avons joué la fille de l'air. Je refis un nœud à la corde, je l'empoignai. Marialus, à qui j'avais passé le sac qui contenait une assez forte somme et nos objets de toilette, se mit sur mes épaules. Et, arrivés en bas, nous nous mîmes à courir pendant 10 bonnes minutes. Nous descendions du côté de Soleur, au hasard d'un sentier, n'osant nous risquer sur la grande route. Je pensais retrouver les Italiens, mais, en pleine obscurité, nous nous égarâmes. Du reste, nous glissions, nous tombions sur la terre détrempée.
« Eh bien, vous en aviez une colique !»
ricana Michel. Au vrai, je ne pouvais plus arrêter Marialus, qui croyait que nous étions poursuivis et que les bandits allaient nous abattre à coups de fusil. Le plus terrible fut que la pluie se remit à tomber. Comment ? Ah, mes enfants, quelle nuit, sous des tombereaux d'eau, dans la forêt, perdue ! Je n'ai jamais passé des heures pareilles à cause de Marialus, que j'ai dû finalement porter comme une enfant qui n'était plus qu'une loque ruisselante. Enfin, une lumière, une cabane de paysans. On nous recueille, on nous réchauffe, on nous donne un lit, on fait sécher nos vêtements, je vide mes poches. Dans celle du veston, je trouve un mot sur un bout de carton. Merci pour la chambre, je vous laisse le couper, serviteur.
Eh bien, je l'aurais juré. « Faut-il que tu sois gourde ?»
s'exclama le commandant Michel. « Minute !» fit encore Chanlieu. « Ce n'est pas fini. Vous pensez si je suis pris d'une belle rage devant cette stupide plaisanterie qui, vu l'état de ma pauvre Marialus, risquait de devenir criminelle. J'avais beau la frictionner, je n'arrivais pas à la réchauffer. Elle fut prise d'une belle fièvre. » Le lendemain, j'envoyai chercher un docteur à Soleur, et nous ne pûmes quitter cette demeure hospitalière que 2 jours plus tard.
À quelque temps de là, installé dans notre bonheur tout neuf, ces heures affreuses s'étaient effacées de nos esprits. Cependant, la pâleur persistante de Marialus m'inquiétait. Un ami, de retour d'Italie, laissa un journal chez nous. Je pris la gazette, amusé de parcourir les nouvelles italiennes, quand mes yeux furent accrochés par un entrefilet. La plus grande inquiétude règne dans la haute société milanaise. La comtesse Olivia Orsino, partie il y a 2 mois pour un court voyage en Suisse, n'a donné aucune nouvelle. Le fameux ténor Ferretti l'accompagnait. Ils n'ont pas reparu. Aucun indice ne permet d'avoir l'espoir de les retrouver. On les savait très passionnés de haute montagne. On craint le pire. En un éclair, je revis l'expression de la femme du père Schaeffer fulminant.
L'une de ces dames ne veut pas essayer le carcan? Ça pourrait faire l'affaire. Faut vous dire que la Weissbach louchait. Alors, n'est-ce pas, elle ne pouvait pas voir de beaux yeux. Et la Schaeffer biglait vers les yeux de la petite comtesse.
En fin de compte, nous l'avions échappé belle.
Mais l'esprit malin continuant son œuvre, je ne sus que plus tard que Marialus paierait, elle aussi, de sa vie, cette nuit infernale.